Le texte sur lequel nous allons nous entretenir ce matin vous a été présenté par Edo. Nous allons le revoir tout à l'heure dans la projection. Et il s'agit d'un extrait qui vous a été lu de Luc 1, versets 28 et 29, que je vous invite à reprendre. Luc 1, 28 et 29. Il entra chez elle et dit « Réjouis-toi, toi qui es comblé par la grâce, le Seigneur est avec toi. » Très troublée par cette parole, elle se demandait ce que pouvait bien signifier une telle salutation. Béni pour bénir, c'est la thématique sur laquelle nous allons nous entretenir ce matin. Reprise de la Journée internationale de la femme que nous n'avons pas eu le loisir de partager ici en Belgique, mais qui m'a été proposée il y a quelques samedis de cela à Paris. Et quand le pasteur de cette église d'Evry m'appelle pour me dire « Est-ce que tu pourrais présenter en tant que responsable du ministère des femmes ici pour la Belgique un moment avec nous à Paris sur cette thématique ?» J'ai été assez surprise parce que je venais moi-même de dire à Dieu « J'ai compris ma mission et je suis prête à y aller. » Et quand j'ai vu le titre quelques secondes après que je venais à peine de dire « Amen » dans ma méditation personnelle, je me suis dit « Ben écoute, tu as une approche très très particulière et je vais alors développer cette thématique. » Et quand j'ai pris le temps de lire l'histoire de Marie, je me suis rendu compte de beaucoup de vérités que nous allons découvrir ensemble ce matin. Le verbe « bénir » est un verbe actif. Est-ce que vous vous souvenez de la toute dernière fois où vous avez reçu une bénédiction ? Qui peut lever la main ? Oui, non ? Non, franchement, toute dernière fois vous avez été béni, vous vous en rappelez ? D'accord. Chaque jour on est béni ? D'accord, très bien. Et est-ce que vous vous rappelez de la toute dernière fois où vous avez été en bénédiction pour quelqu'un ? Intéressant. Avant d'aller plus loin, revenons sur ce texte. Mettons-nous à la place de Marie. Vous vous rappelez un peu du contexte, hein ? Oui, non ? L'ange vient, s'approche d'elle et lui annonce qu'elle va être enceinte et qu'elle va porter le Fils de Dieu. Mettons-nous à sa place, quelques instants. Imaginons, Marie est chez elle, puisqu'on apprend que l'ange entre chez elle. Imaginez-vous chez vous, confortablement assis, dans votre canapé, ou encore dans votre chambre, ou encore en train de préparer un plat. Et vous entendez subitement une voix vous parler. Alors que vous n'avez pas entendu de bruit d'effraction, de porte ouverte, aucun bruit. Subitement, vous entendez une voix vous parler. Et le comble, c'est que vous voyez une forme, un être, quelque chose qui est très loin de ce que vous connaissez ou ce que vos yeux ont déjà vu. Comment réagiriez-vous ? Apaisé, tranquille, sécurisé ? Une peur. Une belle thématique que tu as improvisée ce matin pour les enfants, la peur. Personnellement, je pense que je me serais évanouie plusieurs fois. C'est vraiment impressionnant. On le lit de façon très très banale, mais pourtant ce qui est ici, là, est un moment très très particulier qui est vécu entre un être humain et une présence extraordinaire, une présence inhabituelle. Pourtant, alors qu'on pourrait penser avoir peur, les paroles qu'elle entend ne sont pas des paroles qui insécurisent. L'ange lui dit précisément « Réjouis-toi, toi qui es comblé par la grâce. » Et il continue en disant « Le Seigneur est avec toi. » À ce moment-là, on peut se mettre toujours à la place de Marie et se sentir quelque part rassuré. Quand on entend « Le Seigneur est avec toi », peu importe ce que l'on voit, inconsciemment ou consciemment, il y a une part de sécurité qui se ressent, qui se manifeste. Mais Marie se demandait toutefois qu'est-ce que cette parole pouvait bien signifier. Allons un peu plus loin, c'est la raison pour laquelle je vous ai demandé d'ouvrir vos Bibles. Continuons la lecture au verset 30. L'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Il règnera pour toujours sur la maison de Jacob, son règne n'aura pas de fin. Jusque-là, Marie écoute. Et on peut déduire que la peur s'éloigne d'elle et qu'elle rentre vraiment en interaction avec l'ange. Elle lui répond par une question qui est tout à fait extraordinaire. Comment cela se produira-t-il ? Puisque je n'ai pas de relation avec un homme. L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint. Il sera appelé fils de Dieu. » Et on termine au verset 36, 37, 38, « Élisabeth, ta parente, a elle aussi conçu un fils dans sa vieillesse. Celle qu'on appelait femme stérile est dans son sixième mois. » Car rien n'est impossible de la part de Dieu. Et Marie va répondre quelque chose d'encore plus extraordinaire au verset 38. Je suis l'esclave du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Et l'ange s'éloigna d'elle. Avant d'aller plus loin, je sais que je vais insister un petit peu, mais prenez la place de Marie. Observez quelles auraient été vos réactions et observez ses réactions. Dans la façon d'accueillir cette nouvelle, Marie révèle une profondeur très très particulière. Elle n'a pas maugréé, elle n'a pas cherché à se cacher, elle ne s'est pas agitée. On a l'impression qu'elle reste stoïque et que tout est tout à fait normal. Elle n'a pas fui, elle n'a pas refusé, elle n'a pas râlé, comme on aime bien dire. Elle a simplement accepté cette nouvelle possibilité. Et le verset 34 l'exprime bien parce que sa première question, sa toute première interrogation commence par « comment ?». Elle ne dit pas « c'est impossible, ça n'arrivera pas », elle demande juste « mais comment ?». On pourrait alors dire qu'il y a un mélange d'incrédulité, mais non, parce que elle exprime à l'ange un fait que pour elle, l'ange ne connaît pas. Je n'ai pas de relation avec un homme. Regardons bien ici la façon de Marie d'accepter une nouvelle possibilité. Est-ce que Marie savait à ce moment-là qu'elle serait une bénédiction pour toute une humanité ? Non. Par contre, on peut noter qu'elle avait une certaine connexion et une profondeur avec Dieu, à tel point qu'elle accepte cette nouvelle possibilité qui lui est faite. Personnellement, j'aurais été effrayée. Qu'est-ce qui va se passer dans mon corps? Comment c'est possible? Comment ça va arriver? Nous, hommes, sommes plutôt cartésiens. Nous avons besoin de preuves tangibles pour oser entrevoir quelque chose arriver que nous n'avons pas encore vu. Que sommes-nous prêts à soumettre à Dieu afin qu'il puisse nous utiliser au-delà de nos pensées les plus profondes ? Souvent, les bénédictions s'accompagnent de responsabilités. Et ces responsabilités ne sont pas toujours faciles à assumer. Marie entend ici qu'elle va être la mère de Jésus. Qu'il sera grand, qu'il sera appelé fils du Très-Haut et que le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. Il règnera pour toujours sur la maison de Jacob, son règne n'aura pas de fin. C'est quand même impressionnant. Autrement dit, dans nos mots un peu plus contemporains, il sera roi de tel ou tel pays, il dominera ou il sera le gérant de toute une organisation déjà en place et bien connue. C'est quand même beaucoup d'informations à disséquer, à enregistrer, à accepter. On note ici de Marie qu'elle a une intelligence émotionnelle très très grande. Parce qu'elle arrive à traiter à la fois ce qu'elle ressent et ce qu'elle entend. Et surtout une intelligence parce que elle est réactive dans les questions qu'elle va cibler et proposer. Elle aurait pu poser d'autres questions avant la question « comment ?»« Pourquoi moi ?»« Qui êtes-vous ? Quel ange êtes-vous ? Sortez de chez moi ?» Une simple question. Comment je vais passer à l'action ? Comment tu veux ? Comment a-t-il prévu que cela se manifestera ? Ni plus ni moins. Je disais tout à l'heure que les bénédictions s'accompagnent. Ici, on parle de bénédiction, puisqu'elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu, s'accompagne de grandes responsabilités. Pas toujours facile à assumer. Regardons ici le pouvoir de l'individualité. Est-ce que Marie, qui était, on le sait, fiancée à Joseph, a tout d'abord été consultée son mari pour savoir ce qu'elle pourrait ou pas faire face à la volonté déjà manifeste de Dieu. Est-ce qu'elle a été consultée, ses amis, ses proches, ses parents, pour savoir comment se positionner sur cette nouvelle possibilité qui lui est présentée ? À aucun moment. Est-ce qu'elle s'est cachée derrière son mari ? Parce qu'on sait bien qu'à cette époque, l'image... Et les commérages pourraient être aussi compliqués pour refuser cette possibilité. Non. Elle a ce que j'appelle activer le pouvoir de l'individualité. Parce que tout être humain créé à l'image de Dieu possède une puissance certes semblable à celle du Créateur, le pouvoir personnel de penser et d'agir. Et les hommes et les femmes qui développent ces pouvoirs-là sont des hommes et des femmes prêts à assumer des responsabilités, souvent des leaders, capables d'influencer eux aussi les autres. Sommes-nous prêts à recevoir de telles bénédictions ? Chacun doit être convaincu pour lui-même. Chacun doit être convaincu pour lui-même. Nous ne sommes pas obligés d'être exactement comme Marie, parce que Dieu nous a créés uniques. Mais alors, quelle est notre unicité ? Quelle est cette bénédiction que nous avons reçue ? L'avons-nous même comprise au moment où elle nous a été révélée, présentée, intuitivement exprimée ? Nous pouvons encore prendre l'exemple d'une autre femme, très rapidement, Esther, qui a été, malgré son enfance difficile, où elle a perdu ses parents, élevée par son oncle qui l'a bien élevée dans l'amour et dans les bons standards de leur époque, qui a eu l'occasion de devenir reine. Qu'a-t-elle fait de sa bénédiction ? L'a-t-elle utilisée à son propre avantage ou l'a-t-elle mis justement au profit de d'autres ? Et de qui avaient besoin d'elle ? Ici, ce que nous comprenons, c'est que nous sommes certes tous différents les uns des autres, mais que chacun a un rôle particulier à jouer. Que se serait-il passé pour notre humanité si Marie avait ne serait-ce bégayé ? Vous vous rendez compte des enjeux derrière chaque bénédiction donnée à chaque individu et du lien de cause à effet de chaque bénédiction ? C'est pas anodin tout ça. Et c'est intéressant de noter, on ne va pas le lire ici, que Joseph ne s'est pas opposé à tout cela. Il a certainement ressenti chez Marie, au moment où ils ont discuté, une certaine détermination et soumission à l'influence de Dieu, à laquelle il ne pouvait même pas, et contre laquelle il ne pouvait même pas argumenter. Joseph aussi a compris l'unicité de Marie dans sa mission de porter le Fils de Dieu et l'a accompagnée dans cette mission. J'aime bien dire que une bénédiction est une mission. Et ça nous ramène au titre « Béni pour bénir ». Recevons-nous juste pour nous-mêmes et nous faire plaisir ici-bas ou recevons-nous pour mettre à profit? Que faisons-nous des largesses qui nous sont données aujourd'hui? Et notre église de Woluwe est une église bénie parce que nous savons que beaucoup d'entre nous, voire tous, bénéficient des largesses de Dieu. Qui, comme Marie, a entendu sa mission et l'a acceptée sans hésiter? C'est intéressant de voir vos réactions ici. Quand on demande à chacun, à chaque individu, quelle est sa mission, quel est son rôle, on a des réponses très classiques dans notre communauté adventiste qui sont aller faire de toutes les nations des disciples, aller baptiser, aller faire ceci, aller faire cela. Est-ce que Marie a eu besoin de faire ça comme ça? Comment elle l'a vraiment manifesté? Est-ce qu'elle a eu besoin de prendre sa Bible et d'aller proclamer qu'elle portait le Fils de Dieu, ainsi de suite? Tout simplement en acceptant une nouvelle possibilité que Dieu lui présentait. Ce que je veux dire ici, c'est que béni pour bénir et recevoir une bénédiction, c'est très subtil. Ce n'est pas forcément manifeste, gros et grand comme on s'attend à le voir ou comme on le voit dans des films ou autres. Tout se joue dans les détails de chaque choix que nous faisons. Une proposition m'est faite, et là on va rentrer dans des nominations par exemple. Est-ce que je l'accepte? Est-ce que je la refuse? Et si je la refuse, qui est-ce que je prive de ce que je suis en mesure d'apporter? Vous n'avez pas idée, vous l'avez certainement expérimenté. Regardons comment une bénédiction devient puissante quand on accepte déjà la toute première possibilité que Dieu nous propose. Quand ce pasteur d'Evry m'appelle pour me dire « Viens à Paris pour une prédication », j'avais deux options. Écoute, j'ai une famille, j'ai deux enfants, je suis en Belgique, je ne vais pas prendre un train, je ne vais pas me déplacer. Puis en plus, cette semaine-là, j'étais à Bordeaux, je crois, ou à Montpellier. Ça fait beaucoup trop... Non merci, j'ai juste pas le temps. Ça, c'était une première option. La deuxième était de dire aussi « Me voici, Seigneur. J'ai compris ma mission, j'y vais ». Et c'était à quoi? 3 semaines? J'aurais pu dire aussi, j'ai pas le temps, il faut vraiment que je rentre dans les détails, que je sache comment. Pourtant, j'ai accepté. Et en acceptant cette bénédiction qu'on appelle nouvelle possibilité ou comme vous le souhaitez, j'ai pu moi-même aussi comprendre, comme nous le comprenons aussi, le lien puissant de cause à effet, de bénir pour bénir, d'être béni pour être une bénédiction en retour. Bien, pour la petite parenthèse, cela m'a apporté beaucoup. Et ça m'a permis d'être invitée sur ma propre île, presque 9 mois ou 1 an plus tard, pour aussi partager sur d'autres thématiques avec d'autres sœurs. Parce que ce message a été vu, entendu, discuté, parlé, etc. Ce que je veux montrer par là, c'est que Marie avait compris qu'il y avait plus à recevoir pour donner peu importe ce qu'elle aura à donner, plus à recevoir qu'à refuser. Avançons un petit peu et regardons le processus du principe de la bénédiction. Marie a été bénie, pourquoi? Et même sans mérite, mais juste par la grâce, parce qu'elle a accepté complètement sa mission. Qu'est-ce qui s'est passé juste ensuite, juste après sa première acceptation? Le Saint-Esprit est venu sur elle. Et c'est alors que la bénédiction pour les autres a pu ainsi être activée. Prenons l'exemple de Jésus. Et la bénédiction de Marie, petite parenthèse, s'est activée comment? Parce que Jésus est né. Et maintenant, regardons un peu de cause à effet ce qui se passe. Jésus lui-même a été béni. Il a accepté sa mission complètement. Dieu était avec lui. Et sa bénédiction pour les autres a ainsi pu être aussi activée. Jésus nous a sauvés. On a parlé d'Esther tout à l'heure, mais on pourrait parler d'une histoire qui ressort souvent, celle de Joseph. Il a une vision, il ne savait pas comment. Il a accepté les possibilités qui se présentaient malgré lui dans sa vie, mais il les a acceptées. L'Esprit de Dieu était avec lui. Et la bénédiction a ainsi pu être activée. pour ses frères et les autres Hébreux. Comment avez-vous permis à Dieu d'activer sa bénédiction pour les autres? Ici, nous voyons le rôle du Saint-Esprit. Et peut-être pourrions-nous dire que l'absence du Saint-Esprit expliquerait nos peurs ou notre manque de partage de bénédictions que nous recevons. Avons-nous peur de recevoir nos bénédictions? Si oui, pourquoi? Est-ce que nos convictions ne seraient pas suffisamment ancrées, puisque nous parlons de la foi? Avons-nous peur des conflits, par exemple? Peur de dire « j'ai été appelé à, j'y vais, je pars ». Avons-nous peur des difficultés? Ça m'a l'air énorme, je ne vais pas y aller. Peur de perdre notre place? Peur de heurter? Peur de perdre notre réputation? Peur de nous exposer? Que se passe-t-il quand nous laissons place à la peur? Le vrai bonheur commence réellement quand nous acceptons les nouvelles possibilités que Dieu nous présente, quelles que soient-elles, grandes, petites. Et alors les principes d'abondance sont activés. On arrête instantanément de râler, de se plaindre, de se victimiser. Les difficultés sont aplanies, en tout cas, je ne dis pas qu'elles s'évaporent, mais elles sont vues autrement. Et les problèmes parfois angoissants qui nous tourmentaient trouvent leur solution. Est-ce que l'une des auteurs que nous aimons bien, Ellen White, savait qu'en prenant sa plume, en recevant les visions que Dieu lui inspirait, est-ce qu'elle savait que jusqu'en 2019, elle serait encore une source de bénédiction pour nous autres? Tout dans le détail, tout ce qui a l'air anodin ou trop facile pour vous, est une nouvelle possibilité ou une bénédiction, ou tout ce qui a l'air trop compliqué mais qui vous est présenté est certainement votre bénédiction pour bénir en retour. Le Seigneur voudrait que nos esprits soient clairs et lucides, capables de comprendre les paroles qui nous invitent et qui nous incitent à le servir. Tout simplement faire sa volonté en se reposant sur sa grâce. Et comment? Tout simplement en changeant notre système de pensée. J'aime bien prendre l'exemple que Miles Monroe, un businessman et homme d'affaires chrétien, présente aussi, c'est celui du lion et de l'éléphant. Le lion va se voir comme dominant et tout ce qui passera devant lui, ce sera pour être mangé. L'éléphant, qui est gros, grand, costaud, devant le lion va se voir comme une potentielle victime et prêt à être mangé. Pourquoi réagissent-ils comme cela? Pourquoi le lion réagit comme ça? Pourquoi l'éléphant réagit comme ça? Système de pensée. Le lion se voit capable d'eux, alors il y va. L'éléphant pense que il risque de se faire manger, bouffer, j'ai bien envie de dire. Alors il prend déjà cette position de victime. Pourtant, quand on compare un lion et un éléphant, ça n'a pas de sens. Un coup de patte, un coup de corne, un bon coup et le lion est à terre. Changez notre système de pensée. Nous sommes des héritiers du royaume des cieux. Nous servons un Père puissant. Qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire? Quelle bénédiction ne pouvons-nous pas recevoir? Quand la Bible dit « soyons la tête et non la queue », c'est tout juste cela. Recevez votre possibilité tout comme Marie. Et vous accepterez donc cette bénédiction pour bénir en retour. Et c'est une grande bénédiction de pouvoir fixer cette pensée sur sa mission. Et ceux qui apprennent à faire d'une manière réfléchie tout ce qu'ils entreprennent, même les choses les plus insignifiantes, deviendront utiles dans le monde et en bénédiction pour le monde. Et enfin, pour terminer, tout comme Marie, je nous rappellerai d'être vraiment connectés pour pouvoir tout de suite déceler ou comprendre des choses que nous n'avons jamais vues qui pourraient nous effrayer, mais bien au contraire les embrasser et les accueillir, d'être connectés, de recevoir pleinement votre bénédiction quelle que soit-elle. Et en copiant le modèle de Jésus, de faire exactement comme lui. Oser croire ce que d'autres n'osent pas croire. Oser voir ce que d'autres n'osent pas voir. Oser dire ce que d'autres n'osent pas dire. Oser ressentir ce que d'autres ne prennent pas le temps de ressentir. Vivre passionné comme Jésus l'était. L'homme a été créé à l'image de Dieu, capable de grandes choses, pour s'épanouir dans l'abondance. Mais pour cela, encore faut-il qu'il accepte sa bénédiction. Et tout part de là. Je vous laisserai en disant, laissons-nous donc remplir du Saint-Esprit pour oser croire, voir, dire et ressentir et embrasser notre mission pour bénir, recevoir notre bénédiction et être en retour source de bénédiction. Qu'il nous soit fait selon notre foi. Amen.